Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme chaque soir sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, qui veut encore être maire? Nous sommes en direct depuis le parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris où se tient le 102e congrès des maires de France. Cet après-midi, vous l'avez entendu dans le journal, ce congrès attendait avec impatience le discours du président de la République dont la politique a été sévèrement critiquée par le président de l'Association des maires de France, François Boiroin, son vice-président de cette même association, André Léniel, a de son côté évoqué la fin de mandat d'un certain nombre de maires, des maires, je cite, marqués par un mandat municipal bouleversé. Et éprouvant. Qui veut encore être maire? C'est la question que nous posons à nos trois invités à 4 mois des municipales. Agnès Lebrun est maire de Morlaix et vice-présidente de l'AMF. Christine Deneville est maire de Vic-sur-Breuil en Haute-Vienne. Et Pierre Rey est maire d'Autrechaîne et président des maires du territoire de Belfort.
Ce qui compte, c'est l'engagement. Ce qui compte, c'est que la République des maires vive. Ce qui compte, c'est que les maires de France unissent encore et encore la société, façonnent encore et encore le pays, continuent à forger ce que nous sommes, ce peuple enraciné, ces paysages, ces différences, et répondent à ces ambitions contemporaines.
Bonsoir à vous, bonsoir Agnès Lebrun, merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Morlaix, vice-présidente de l'AMF, et vous avez écouté comme moi le discours du président de la République qu'on vient d'entendre. Vous êtes maire depuis combien de temps ?
Je suis maire depuis 2008.
Et vous étiez donc dans le Parti des Républicains, vous êtes maintenant non inscrite, c'est ça ? Vous êtes passée
Exactement.
En divers droites, c'est cela ?
Oui, oui, non inscrite, sans étiquette. Enfin, mon parti, c'est ma commune, ça pourrait se résumer comme ça.
Christine Deneville, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire de Vic-sur-Breuil, en Haute-Vienne. Vous êtes maire depuis combien de temps ?
2001.
Et donc, ça fait maintenant 18 ans.
Oui, c'est ça. On a eu un an de plus.
Et puis, pour vous, Pierre Rey, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire d'Autrechaîne et président des maires du territoire de Belfort.
C'est exact.
Et vous êtes maire depuis combien de temps ?
Depuis 95.
Donc, ça fait ?
Longtemps.
Un bail.
Et c'est
bail.
La fin ? Et vous arrêtez, justement ?
Oui, oui, oui.
Vous raccrochez les gants ?
Bah écoutez, je crois que j'ai fait mon temps parce qu'avec un mandat de premier adjoint qui s'ajoute à mes 4 mandats de maire, j'ai donné 31 années de ma vie pour ma commune.
Et qu'est-ce qui fait qu'on raccroche à un certain moment ? Vous n'êtes pas si âgé que cela ?
Bah écoutez,
par rapport à la moyenne des maires, d'une certaine façon, vous êtes dans la bonne moyenne ?
Bah écoutez, eu égard à mon physique, je ne sais pas comment il faut le dire. Non, j'ai eu 71 ans la semaine passée et voilà, j'ai envie de vivre.
Parce que vous avez l'impression de ne pas avoir vécu pendant tout ce temps-là ?
J'ai sacrifié beaucoup de ma vie pour ma commune.
Mais c'est un sacrifice, c'est un terme sacré justement, c'est presque un terme religieux.
Bah écoutez, quelque part, plusieurs collègues vous le diront, être maire c'est un sacerdoce aujourd'hui.
C'est ce qui remplace le prêtre dans nos villages qui n'en ont plus.
Peut-être, mais enfin, vous savez que dans une commune, le maire, dans les petits villages, il est tout à la fois. Il n'y a plus de curé, donc il faut un psy de service. Il est employé communal, il est secrétaire bis, il conduit le bus scolaire aussi. Voilà, c'est tout à la fois.
Ça vous arrive d'avoir conduit le bus scolaire ?
Fréquemment.
C'est vrai ?
Fréquemment.
Par manque de personnel ?
Oui, parce que j'avais un problème d'emploi communal il y a quelques semaines encore, quelques mois en arrière, pardon. Et bah les enfants, ils avaient quand même école, il fallait trouver une solution. Et on avait supprimé un grand bus avec une poignée d'enfants à l'intérieur, parce que ce n'était pas financièrement une solution viable. Et donc on a un petit bus, un minibus, 8 places si vous préférez. Et ramasser les enfants du village, c'est une belle opération. Déjà, vous ressentez votre commune, vous trouvez le lien social au pied des abribus le matin.
Très tôt, souvent.
Oui. Non, mais c'est un bel exercice.
Christine Deneville, vous n'avez peut-être pas conduit l'abribus de votre village ?
Non, j'ai pas compris. J'ai conduit ni le bus, ni l'abribus.
Ni l'abribus, ni l'abribus. Parce que l'abribus, ça ne se conduit pas, effectivement.
Non, nous, c'est une compétence départementale qui est maintenant régionale. Donc, j'avoue que je ne conduis pas le bus scolaire. Mais ceci dit, ça m'a un peu embêtée que la compétence bus scolaire entre notre école municipale et le collège soit, moi qui suis de Haute-Vienne, au sud de Limoges, soit gérée à Bordeaux. Donc, ça pose un peu des problèmes depuis que la compétence est passé en région. Mais enfin bon, on s'adapte.
Et alors, est-ce que vous avez l'impression, comme on vient de le dire, que vous êtes un peu Shiva, c'est-à-dire que vous avez 6-7 mains et que vous êtes obligé de faire plein de choses en même temps en tant que maire de votre commune.
Alors oui, ça c'est vrai. Alors je pense que ça dépend beaucoup de la taille des communes quand même. Et que la relation à la
population... La vôtre, c'est 1350 habitants.
Ouais, c'est ça, c'est 1350 habitants. Donc, je pense que ça dépend effectivement de la taille des communes. Je pense aussi que c'est effectivement, on peut se lasser. Il se trouve que moi, je ne suis pas lassée et que, en plus, le fait d'être maire, c'est un peu arrivé par hasard dans ma vie.
Vous faisiez quoi avant?
J'étais pas mère, tout simplement.
Oui, je sais bien, mais vous aviez une activité professionnelle.
Et... Oui, à un moment donné, j'étais, avant d'être enseignante en histoire, j'étais responsable d'une interprofession dans l'agriculture et dans la chèvre en particulier. Mm-hmm. Non, c'est un cadeau de la vie. Pour moi, c'est vraiment un cadeau de la vie, parce que ça m'a permis de me déployer dans un univers ni trop grand, ni trop petit. Et j'ai toujours trouvé qu'intellectuellement, c'était absolument formidable d'être au début d'une décision, de la voir s'appliquer et d'être là pour en cueillir les fruits. Et ayant été enseignant, je sais qu'on sème beaucoup sans voir les fruits. Et c'est vrai que une des grosses joies de l'activité de maire, c'est justement de pouvoir se retourner derrière son épaule et de dire, ben voilà,
j'ai fait ça,
nous avons fait ça. Parce qu'un maire, c'est jamais tout seul.
J'imagine, Agnès Lebrun, que ça n'est pas exactement la même chose, parce que 14 721 habitants, ça n'est pas exactement les 1500 ou 1350 de cette commune de Vic-sur-Breuil en Haute-Vienne, mais c'est tout de même un apostolat.
Oui, ce n'est pas un hasard si le vocabulaire utilisé pour décrire la fonction est souvent un vocabulaire religieux. On parle de mission, on parle de sacerdoce républicain, on parle de vocation aussi. Et cette connotation-là, elle exprime quelque chose de clair, peut-être la disparition du prêtre dans les villages, mais en tout cas, surtout l'engagement personnel plein et entier, parce que quelle que soit la taille de la commune, je crois, le maire est disponible 24 heures sur 24 et il est là tout le temps sur le pont pour être dans la réaction et dans l'action. C'est-à-dire que, quelle que soit la taille de la commune, il a cette obligation d'être dans la proximité. Il le fait bien volontiers, même si vous avez peut-être vu l'enquête que nous avons commandée à l'AMF pour le CEVIPOF, qui
Absolument.
Montre que le premier motif d'abandon, quelquefois vécu comme un abandon de poste, mais en tout cas le premier motif des gens qui ne veulent pas se représenter, c'est le renoncement à la vie personnelle qu'ils ne supportent plus.
Ce qui était effectivement le cas, ce que disait Pierre Rey à l'instant même. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce terme de République des maires qui a été utilisé par le président tout à l'heure?
C'est une expression, on ne peut qu'y souscrire, mais on peut en trouver d'autres. La République des maires, oui, bien sûr, les maires sont le premier maillon de la cohésion sociale. Le Premier ministre a indiqué que sans les maires, la République était une coquille vide, certes. Donc les maires ne sont pas dans cette coquille, parce que si on prolonge la métaphore, je la trouve pas très très aimable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont sur le même bateau, c'est certain.
Et je vous propose d'écouter donc votre collègue André Léniel, maire PS d'Issoudun, dans l'Indre, qui est premier vice-président de l'Association des maires de France et qui s'exprimait avant le président François Baroin et avant le président de la République.
Restriction des moyens, y compris ces deux dernières années, amplification des tâches, réformes institutionnelles, resserrement des tutelles, exigences des citoyens, développement des incivilités, accroissement des agressions, souvent verbales ou via les réseaux sociaux, cette nouvelle langue d'Ésope, mais aussi par des actes de violence physique qui ont parfois conduit jusqu'à l'extrême. Dans ces conditions, on peut comprendre le découragement, les abandons, les renoncements qui ont atteint certains d'entre nous, mais aussi et surtout le courage nécessaire pour continuer l'action. Notre congrès, c'est aussi le moment du bilan de l'année écoulée. Disons-le tout net, s'il y a eu ici ou là quelques progrès, l'année n'a pas apporté de réponse ni de satisfaction réelle dans les deux domaines qui sont essentiels pour nous, la liberté et les moyens de la liberté.
Voici donc ce que disait André Léniel tout à l'heure, cet après-midi, donc à l'occasion de ce 102e congrès des maires de France. Vous avez tous et toutes écouté ce discours et ces autres discours du président de l'AMF, François Baroin, mais aussi du président de la République. C'était vraiment une diatribe très dure qui était donnée par André Léniel. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous-même?
Oui, par François Baroin. Moi aussi. Moi, je pense que effectivement, à un moment donné, les maires ont été un peu abandonnés, voire totalement abandonnés.
Abandonnés dans quel sens ?
Dans le sens où on lui en a fait souvent le reproche. Je pense que le président Macron, n'ayant pas d'expérience d'élu local,
Il a essayé de s'en défendre justement dans son discours.
Je sais bien. Mais
en disant qu'il vous avait beaucoup écouté et que comme il vous avait beaucoup écouté, ça avait infusé en lui.
Bah tant mieux. Il nous a beaucoup écouté parce qu'à un moment donné, il a eu clairement besoin de nous. Et je pense que la République dont on parle, c'est bien ça. C'est-à-dire que nous sommes les représentants de l'État, les représentants de nos administrés, mais aussi les représentants de l'État. C'est-à-dire que si on n'est pas en partenariat avec le gouvernement et avec son premier personnage qui est le président de la République, évidemment ça ne peut pas coller, ça ne peut pas marcher.
Pierre Rey, on a entendu ces adjectifs, c'était lénifiant, disait André Léniel, une calamiteuse réforme de la taxe d'habitation, c'est une fable que seule la proximité de Noël peut expliquer, un illusoire ruissellement, etc. etc. C'était vraiment un véritable réquisitoire qu'adressait le vice-président de l'AMF auprès du président de la République.
Vous croyez que c'était un réquisitoire ? La vérité des maires, tout simplement. Mais c'est vrai que pour revenir sur... Il l'a dit aussi, la Constitution, elle dit quoi ? Elle dit qu'il y a une libre administration des communes. Et vous croyez que la décision bientôt d'étatiser les impôts, de nationaliser les impôts, c'est la libre administration des communes ? Je pose la question.
Et il y a aussi autre chose dans ce que disait André Léniel. Il n'y a pas que la responsabilité du président de la République qui vient d'être pointée du doigt, mais il y avait aussi un changement sociétal, pourrait-on dire, qui faisait que vous étiez dans une façon d'être différente vis-à-vis de vos concitoyens. Il y avait les réseaux sociaux, a-t-il dit, cette langue d'Ésope, etc.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société qui a beaucoup évolué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un niveau d'exigence de la part de nos habitants qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Moi,
Ça veut dire quoi ? Ça se traduit comment ? Expliquez-nous ce que c'est que ce niveau d'exigence.
Le niveau d'exigence, je paye des impôts, donc j'ai le droit, donc j'exige. C'est quelque chose qui s'entend. Enfin, que l'on entend.
Oui, qui ne s'entend pas, mais que vous entendez.
Que ça s'entend pas. Vous avez compris le jeu de mots.
Et pour vous, Agnès Lebrun ?
Bien sûr. Alors, bon, pour ce qui est de l'intervention d'André Léniel, qui est premier vice-président délégué, chacun a son registre et chacun a son style. André,
oui, il y avait good cop, bad cop.
Un sens légendaire de la modération qu'on lui reconnaît, et on serait même déçu d'ailleurs s'il n'était pas dans ce registre. Mais
il a fait un grand hommage à François Mitterrand, mais c'est tout à fait normal étant donné sa famille politique.
Oui, plus sérieusement, je pense qu'il y a eu un acte 1 dans les relations entre le président de la République et les maires qui a été un faux pas, c'est-à-dire qu'il y a eu une forme d'indifférence, il y a eu une forme d'ignorance, voire d'arrogance, et c'est vrai que ça a posé problème. Et ensuite, eh bien, la démocratie a pris un sacré coup de froid avec la crise des Gilets jaunes, et il a bien senti que nous avons tenu la maison, nous avons tenu la baraque, c'est-à-dire
que... Ça veut dire quoi, tenir la maison pendant la crise des Gilets jaunes ? Expliquez-nous, parce que...
Oui, ça veut dire tout simplement que nous avions d'abord lancé quelques alertes, nous avons tiré le signal d'alarme en indiquant toutes ces difficultés qui nous étaient remontées, parce que, comme le disait Pierre, nous sommes dans la proximité permanente, et en l'occurrence, tous ces sujets qui sont ressortis du grand débat, c'était bien souvent des sujets qui relevaient de questions posées à l'État et pas aux maires. Le 80 km/h, les taxes, la complexification, les normes abondantes, etc. Tout cela, le pouvoir d'achat, tout ça, c'est évidemment, ce sont des choses sur lesquelles les maires ont bien peu de levier pour agir. Donc nous avions fait remonter cela, et lorsque le grand débat a été décidé, parce que, encore une fois, la démocratie s'était enrhumée, eh bien, les maires ont été facilitateurs, soit organisateurs, mais bien plus souvent et très généralement, ont été très, très allants pour faciliter les choses et pour faciliter ce dialogue qui semblait rompu et agressif entre l'État et le pouvoir central et puis les administrés. Et donc, nous avons été au rendez-vous. Maintenant, ça n'est pas pour cela qu'il y a eu une complète reconnaissance de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. On voit bien qu'il y a un maillon manquant.
Christine de Neuville, il y avait des gilets jaunes à Vic-sur-Breuil.
Alors, il n'y a pas de rond-point, mais à Vic-sur-Breuil.
Il peut y avoir des gilets jaunes sans rond-point.
Bien sûr qu'il y avait des gilets jaunes. Et nous avons, comme beaucoup de maires ruraux, et à la demande de l'AMRF, du reste l'Association des maires ruraux, nous avons ouvert les fameux cahiers de doléances. Vous faisiez référence à la Révolution. Le président faisait référence à la Révolution. Mmh. Ben voilà, les cahiers de doléances sont revenus. Alors maintenant... pour ce qui me concerne et ce qui concerne aussi les maires ruraux, c'est-à-dire que il y a les discours, puis après il y a les faits. Voilà. Alors il y a des choses qui sont remontées. On a organisé ou facilité les grands débats. On a posé, on a fait un état chez les maires ruraux. On a fait un état qu'on appelait l'état généreux. Et on avait fait plus de 200 propositions. Et en réponse, on a eu un agenda rural avec 173 propositions.
Ce qui a été précisé par le président.
Voilà. Alors, c'est vrai, l'agenda rural, il est là. Maintenant, on va suivre point par point. Parce que entre le discours qui a l'air effectivement facilitateur et la réalité, eh ben on sera le maçon au pied du mur, ou il sera le maçon au pied du mur pour tenir les engagements qui ont été pris. Parce qu'il ne suffit pas de les dire et de les écrire, il faut les mettre en œuvre.
Alors après le vice-président de l'AMF, le président de l'AMF, François Baroin.
On revient de très loin, parce que si le mandat a été difficile par les circonstances, il l'a été également par ce que nous avons entendu. On nous disait qu'on faisait trop de dépenses, qu'on aimait la cocarde, les cocktails, on faisait des ronds-points qui aboutissaient dans une impasse ou qui servaient à rien. Certains pourraient être tentés de dire que finalement il y avait une affectation cachée à l'utilisation de ces ronds-points, mais je laisse le soin aux uns et aux autres éventuellement de l'évoquer. Enfin, c'était quand même ça il y a 6 ans. Oui, c'était ça. Ces élus dépensent trop, ils sont clientélistes, et certains expliquait que nous incarnions une France du passé qui devait laisser la place à une génération de gestionnaires qui ferait le bonheur des gens sans leur en parler. Et oui, à la rigueur, qu'on pourrait peut-être les interroger par Internet.
Pierre Rey, est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait partie d'une génération du passé, justement, critiquée par, en l'occurrence, ces technocrates qui sont pointés du doigt par François Baroin?
Non, parce que quelque part, quand on habite une petite commune, on est économe par nature.
Vous n'avez pas fait trop de cocktails, pas trop de ronds-points.
Ah, écoutez,
et vous aimiez la cocarde, même, pour pouvoir l'avoir portée pendant aussi longtemps.
Oui, j'aimais la cocarde, comme vous dites, mais enfin, c'était notre signe de reconnaissance, c'était notre bannière. Bref, on est très économe, surtout dans les petites communes, avec des moyens qui ont diminué sur le mandat, pratiquement de moitié. Faudrait pas. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien noter. On a un mandat, j'ai envie de dire un mandat pourri, pardonnez-moi le terme, mais,
oui,
mais quelque part...
On a compris que c'était ça qui était dans l'air ici, à la porte de Versailles.
Ce dernier mandat, c'est une partie où, quelque part, il y a quelqu'un qui siffle en milieu de partie pour dire stop, on change les règles du jeu. C'est un peu ce qui s'est passé pour nous les maires. Parce que, justement, on a eu la loi NOTRe, on a eu...
Alors, la loi NOTRe, ça n'est pas Macron président qui en est responsable, puisque c'était François Hollande.
L'application, on a eu. Ouais. On a eu, effectivement, des modifications d'Interco, on a eu des dotations, je le disais, à la baisse, et puis, effectivement, on a dû appliquer des mesures avec beaucoup moins de moyens qu'avant. On nous a donné des compétences, justement, sans nous en donner les moyens.
Et vous avez la même impression, Agnès Lebrun ?
Oui, bien sûr, parce qu'on oublie quelque chose dans cette histoire, c'est que nous sommes, il ne s'agit pas de cocarde et pas de cocktail, il y a deux choses. La première, c'est qu'on est issu du suffrage universel, il ne faudrait peut-être pas l'oublier, enfin c'est quand même la base de la base, mais j'ai quand même le sentiment que de temps en temps, il faut le rappeler, on n'est pas là par hasard, on n'est pas là, on peut aussi se faire dégager au bout de 6 ans, ce qui rend extrêmement libre finalement les choses, parce que c'est ça la démocratie. Le suffrage universel nous a donné mandat pour développer, pour deux choses, et ce que l'on fait avec notre budget, c'est-à-dire à la fois développer notre commune, puisque nous sommes des chefs d'entreprise municipale. Nous contribuons d'ailleurs par ces budgets à l'économie locale à une très très grande hauteur, et il ne faut pas non plus l'oublier. Nous sommes là pour servir, c'est-à-dire pour construire et pour servir. Pour servir, c'est-à-dire donner des services de proximité.
Alors que souvent, l'image de l'élu, c'est... Ils se servent, c'est malheureusement...
Oui, mais ça
c'est
veut dire quoi? Ils se servent dans quoi? Pourquoi? Ils n'ont pas de garde-manger qui remplissent tous les soirs avec l'argent qui est voté en conseil municipal. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire que ces services, et Pierre a raison, ces services de proximité qui ont la qualité que le budget permet... C'est-à-dire que le service est dégradé si le budget diminue. Et là, ce qui s'est passé pendant ce mandat, effectivement, les règles du jeu ont changé. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. On nous a donné la responsabilité de nous occuper de la carte d'identité. Je parle des communes de ma taille, de la taille de la mienne. Eh bien, on nous donne la carte d'identité. Il faut qu'on la gère. Il y a deux solutions. Ou on dit 4 mois de délai pour avoir un rendez-vous, ou bien on crée un poste et demi, c'est ce que nous avons fait, donc un poste et demi d'agent municipal qu'il faut bien payer. C'est bien sur le budget de la commune. Donc c'est facile d'avoir des idées avec l'argent des autres, et à un moment donné, eh bien, quand on nous... qui décide paye, c'est-à-dire on nous donne des responsabilités, on observe la façon dont on les exerce, mais on ne nous donne pas les moyens financiers de l'exercer. Nous, à titre personnel, ça n'impacte pas, mais la qualité de service et le degré de développement de notre commune, c'est très impacté. Et
c'est d'ailleurs une des antiennes de cette journée, c'est qui décide paye, en l'occurrence.
Oui, parfois on veut décider et bien payer, et pour reprendre l'exemple du maire de Morlaix sur la carte d'identité, moi on m'a retiré la carte d'identité, c'est monsieur Cazeneuve. Hein.
Ce mandat.
Mais ça revient au même, c'est-à-dire que l'État a décidé pour moi que je n'étais plus en mesure de donner les cartes d'identité à mes administrés. Alors effectivement, on se retrouve avec 4 mois d'attente à Limoges ou dans les communes ailleurs, alors que j'étais tout à fait prête à les conserver. Donc encore une fois, c'est-à-dire à quel niveau est la bonne subsidiarité ? C'est-à-dire qui fait quoi au bon niveau ? Voilà, et je pense que c'est la question essentielle qu'on doit répondre à laquelle on doit répondre tous collectivement.
La dotation, c'est l'argent que l'État doit aux collectivités locales à raison des impôts nationaux locaux qu'il a supprimés pour pouvoir financer les services publics, soutenir l'investissement public, développer chacun de nos territoires.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Et nous avons ressenti tout cela comme une injustice.
Un temps du débat donc consacré au maire, qui veut encore être maire ici à la Porte de Versailles à Paris à l'occasion du 102e congrès des maires de France. Et nous sommes avec nos trois invités, Agnès Lebrun, Christine Deneuville et vous, Pierre Rey. Quand vous entendez François Baroin dire cela, la dotation, ça n'est pas une subvention, dit-il. C'est-à-dire que vous avez l'impression, et c'est ce que vous nous disiez il y a un instant, qu'on vous avait enlevé une partie de votre capacité de gestion, de décision en tant que maire là où vous êtes.
Tout à fait, puisque vous avez entendu le président Baroin effectivement parler de l'argent, de notre argent. L'État gère notre argent en nous retirant une partie ou en ne nous redonnant pas ce que nous avons produit. Et quelque part, vous l'avez également entendu, dans 24 000 communes, les habitants qui payent des impôts, ces impôts partent à l'extérieur pour une part. Ça aussi, c'est quelque chose qui est choquant. Non, ça vous...
Ah non, c'est moi, je suis juste là pour vous faire débattre. Oui, non, effectivement, c'est une vraie question. Et on sent que ça, c'est ce qui fait mal ici. La question de l'argent en particulier fait mal. Avec cette idée qui a été aussi assénée par François Baroin, que le président Macron avait supprimé un impôt qui ne lui appartenait pas.
Tout à fait. Tout à fait.
Ça a été très applaudi dans la salle ici.
Bah absolument, mais moi j'ai applaudi le premier, tout le monde s'est levé d'ailleurs en plus. Quand vous supprimez la TH et qu'on vous promet...
La taxe d'habitation.
Et qu'on vous promet qu'elle va être remboursée à l'euro près, on capte la taxe foncière des départements qui demain auront des ressources qui ne seront pas garanties, avec des besoins au niveau genre RSA, est-ce qu'ils pourront encore l'assumer ? C'est une grosse question. Et quelque part, au niveau des communes, les règles du jeu ne sont pas claires, parce que, si vous remarquez, il n'y a pas eu de simulation.
Oui, et puis on voit bien que ce que appelle de ses voeux l'AMF, et dont vous êtes vice-présidente, Agnès Lebrun, c'est une sorte de grand bouleversement avec les départements, avec les régions, avec l'État, avec les intercommunalités, avec les communes, pour qu'on change tout le système, enfin qu'on le fasse évoluer de façon tout à fait radicale, Agnès Lebrun.
Oui, qu'on le fasse évoluer. Ce qui a choqué, c'est de penser que on ne puisse pas trouver quelqu'un qui soit heureux. C'est ce qu'a dit le président de la République. Trouvez-moi quelqu'un qui soit malheureux qu'on ait supprimé la taxe. Ben, je suis désolée, oui, si, on peut être malheureux. C'est-à-dire que la taxe, il faut pas oublier que les ressources fiscales, que les impôts, historiquement, c'est le premier consentement. Le consentement à l'impôt, c'est la base de la démocratie. C'est le premier degré de la démocratie. L'addition des différences n'a jamais fait société. Ce qui fait société, c'est de dire ensemble, dans une perspective de vision générale, d'effort collectif, on va mettre au pot.
Alors, mais il peut y avoir des impôts injustes. Donc on
non,
peut
mais
aussi qu'il
y ait des impôts
qu'il
injustes,
soit...
qu'il faille revoir les choses et on s'est allié avec l'Association des départements de France et l'Association des régions de France, précisément pour remettre tout ça sur la table et pour appeler de nos voeux un troisième acte de la décentralisation, parce que je pense en effet qu'en termes de ressources fiscales, c'est très important. Il n'en reste pas moins que c'est une vision assez à court, surtout dans un contexte, si je puis me permettre, dans un contexte sociétal où on voit bien qu'il y a un délitement de la citoyenneté, ça a été évoqué par André Léniel, où on voit le citoyen, entre guillemets, devenir plutôt un consommateur et percevant la collectivité plutôt comme un prestataire de services. Donc il y a la nécessité de créer une nouvelle citoyenneté et pour créer une nouvelle citoyenneté, il faut une implication collective autour d'un bien commun. L'impôt est un des leviers et un des moyens pour incarner ce bien commun.
Christine de Neuville. Vous avez dit tout à l'heure que vous repartiez pour une nouvelle course à un nouveau mandat. Est-ce qu'autour de vous, justement, je crois qu'il y avait une petite musique qui tournait ici, la possibilité que beaucoup ne se représentassent pas. Qu'est-ce qui est possible? On peut se représenter, on peut ne pas se représenter. Autour de vous, il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'arrêter leur mandat.
Enfin, les statistiques de l'AMF ont un peu évolué parce que, effectivement, dans un premier temps, c'était 50%. Enfin, c'était des chiffres absolument effarants.
L'année dernière, voilà, au mois d'août, à l'automne dernier, on disait qu'il y aura 50% de personnes qui ne se représenteront pas au poste de maire. En fait, aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Qu'on se rapproche de l'échéance.
C'est
qu'on se dit qu'on te fait, on peut remettre.
C'est ça. Et puis, pour beaucoup d'entre nous, on a des projets en cours. Alors c'est vrai que évidemment on a moins d'argent, enfin tout ce qu'on vient de dire, et sur la fiscalité, les maires ruraux ont beaucoup de choses à dire parce que sur les dotations on vaut à peu près la moitié des urbains quand même, hein, et on voudrait bien que les charges de ruralité.
Qu'est-ce que vous voulez dire, on vaut la moitié des urbains?
On reçoit une dotation générale de fonctionnement et elle est estimée.
Qui n'est pas une subvention,
c'est une redistribution, voilà. Et ben quand vous habitez la commune de Vic-sur-Breuil, vous avez moitié moins de la commune de Limoges ou des communes urbaines. Maire de Morlaix ne me contredira pas sur cette question-là.
Et donc vous considérez comme des demi-citoyens ou vous considérez que
On aimerait bien ne pas être considérés comme des demi-citoyens. Mais qu'on soit demi-citoyen ou pas demi-citoyen, en fait, pour beaucoup de nous, qu'est-ce que c'est qu'un maire? C'est quelqu'un qui essaye de voir un peu plus loin et qui a donc des projets. On ne fait pas que de la gestion de trottoir. On pense pour le territoire qui nous est confié, parce que, alors, on parlait de sémantique tout à l'heure. Oui, on pense que le territoire nous est confié par les gens qui ont voté pour nous. Et donc, on est porté par les projets qu'on a, et que tant qu'on n'a pas le sentiment, il me semble, qu'on est arrivé, on est allé au bout de ce qu'on avait pensé pour un territoire.
C'est pour ça qu'on
a envie. Ouais, absolument.
Vous êtes comme des joueurs de foot qui ne veulent pas arrêter la partie d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a toujours un championnat qui vous permet de dire on va continuer encore un petit peu plus longtemps. Hein. Une Coupe d'Europe, une Coupe du Monde, etc.
Comme vous disqualifiez nos enjeux.
Mais c'est tout à fait qu'on comprend.
Non, mais c'est pas un jeu. C'est la vie de nos administrés qui est dans nos projets.
Mais c'est aussi, effectivement, une vision d'avenir qui vous permet de vous inscrire dans une temporalité qui n'est pas la même que la temporalité
absolument.
De tout
citoyen. Absolument. Et c'est pour ça qu'on se bat d'arrache-pied pour être reconnu, pour que les demandes qu'on porte, qu'on trouve légitimes parce qu'elles sont au nom de notre population, aboutissent.
Pierre Rey, vous êtes également président de l'Association des maires du territoire de Belfort. Et donc, vous avez pu discuter avec vos collègues qui sont dans cette même association. Est-ce que vous avez vu beaucoup de gens qui... l'année dernière, avait envie d'arrêter et qui, cette année, disent « je vais peut-être quand même continuer, contrairement à vous ».
J'ai rencontré beaucoup de collègues qui m'avaient dit qu'ils arrêteraient. Certains s'étaient donné une butée sur le calendrier, partant du principe qu'ils attendaient d'avoir un adjoint ou un collègue qui reprenne le flambeau. Et certains, effectivement, vont, comme ça s'est passé fréquemment à chaque élection, repartir avec l'argument...
C'est dans l'amicale pression de mes amis, généralement.
Il n'y a personne d'autre, je repars. Bon, ça s'entend, mais il y a d'autres endroits. La nature a horreur du vide, vous le savez bien, et quelque part... Il y a des collègues qui ont pris la décision d'arrêter complètement et qui vont tenir leur engagement. C'est mon cas.
Un des points très forts, Agnès Lebrun, qu'on ressent ici au congrès de l'Association des maires de France, c'est une tension sur les intercommunalités. Une tension entre les communes, ce qu'on en aura enlever à ces communes pour pouvoir les donner aux intercommunalités. Et alors, la question de l'eau semble essentielle. Vous pouvez nous expliquer l'enjeu de cette question ?
En deux mots, la mutualisation a toujours existé. Les syndicats intercommunaux ont préexisté à l'intercommunalité. Et l'intercommunalité, je crois qu'en vérité, personne n'est contre. Intercommunal, ça veut dire entre soi, on décide que faire les choses ensemble, c'est mieux. Par contre, la supracommunalité, c'est une autre affaire. La supracommunalité, c'est une communauté d'agglomération qui va décider finalement que ce qu'elle que par les compétences qui lui sont confiées, les responsabilités qui lui sont confiées, elle peut décider pour la commune dont vous êtes maire que la collecte des ordures ménagères va se faire de telle ou telle façon, qu'on va arrêter la collecte des encombrants, que l'eau et l'assainissement comme c'est transféré, eh bien l'eau va augmenter. Et vous, vous vous retrouvez face à votre population qui évidemment va au plus droit, au plus direct, et qui va voir son maire en lui disant, mais c'est quoi ce bazar, pourquoi les encombrants ne sont plus... Et évidemment, vous ne pouvez pas décemment lui répondre, c'est pas moi, c'est l'autre.
Vous êtes donc dans une intercommunalité vous-même ?
Oui, je suis dans une intercommunalité. Je suis dans une communauté d'agglomération un petit peu spécifique, puisque nous faisons presque 25% de la population, et la ville-centre n'en a ni la présidence, ni même plusieurs vice-présidences. Donc, Là, je porte devant vous la voix de l'Association des maires de France qui... Du reste, ne l'oublions pas, c'est l'association des maires et des présidents d'intercommunalité. Donc nous n'avons pas notre credo, c'est pas haro sur l'intercommunalité. Simplement, nous disons que ça doit être un outil.
Et pourquoi dit-on ici, dans les couloirs, qu'il ne faudrait pas qu'on passe au suffrage universel pour l'intercommunalité ? C'est-à-dire que tel que c'est fait aujourd'hui, vous êtes élu en tant que maire d'une ville ou d'un village au suffrage universel, et ensuite on élit le conseil intercommunal.
Pour deux raisons, à mon avis. L'une qui a été évoquée par Pierre et aussi par ma collègue, c'est que la libre administration des communes, c'est un fondement de la République et c'est un fondement démocratique. Et la seconde, c'est que mariage imposé, mariage raté, mariage consenti, mariage réussi.
Christine Deneville, voilà. Vous êtes dans une intercommunalité ?
Oui, je suis dans une intercommunalité.
Vous n'avez pas la main sur l'intercommunalité vous-même non plus ?
Non, je ne l'ai pas. Mais en fait, nous, on est dans une intercommunalité qui a beaucoup de chance parce qu'elle est très équilibrée. En gros, il n'y a pas de ville-centre, en fait.
Vous êtes en Haute-Vienne.
Oui. Je voudrais revenir sur un point. Ce matin, il y a un de nos collègues qui est intervenu dans l'auditorium pour dire qu'il n'allait plus aux réunions d'intercommunalité parce qu'ils étaient 95 communes dans l'Ariège pour 33 000 habitants. Et je rajoute qu'il en avait probablement pour une heure ou une heure et demie pour aller à son centre de communauté. Donc ça, c'est juste pas possible. Donc nous, ce qu'on attend, et Madame représentait l'AMF, aujourd'hui c'est moi l'AMRF, c'est que à ce niveau-là d'intercommunalité, c'est totalement stupide, on ne peut pas gérer, l'ensemble des maires, à 95 maires, ne font pas partie, ne sont pas concernés, ne sont pas interrogés, il n'y a pas de bureau des maires. Donc je pense qu'une des raisons aussi pour lesquelles à un moment donné on a eu 50%, sachant que la majorité des maires sont quand même des maires ruraux, ben ça vient de ça. C'est parce qu'il y avait un sentiment d'impuissance et d'être inaudible de beaucoup de maires ruraux à cause de ces intercommunalités dites XXL.
Pierre Rey, vous, dans le territoire du Belfort, ça se passe mieux ?
Ça se passe très bien. Écoutez, je suis dans une aglo, j'en suis le vice-président, et on est 145 000 dans le département, et l'aglo fait 105 000. Ouais. Donc c'est un peu particulier quand même.
Oui, c'est quasiment la même chose.
Le territoire de Belfort, c'est une grosse aglo, donc, comme je viens de le dire, et puis deux autres communautés de communes, une au nord et une au sud, avec de taille nettement inférieure. Donc c'est pas facile, effectivement, à équilibrer.
Et on peut ajouter à ces questions d'échelle la question de la région. Les transformations régionales qui ont été en cours ont sûrement aussi complexifié votre travail de maire aux unes et aux autres, parce que effectivement, on passait à une autre échelle. Christine Deneville nous parlait de très grandes intercommunalités, quasiment comme un département.
Oui.
Et il y a aussi ces très grandes régions qui ont pu être construites et qui, peut-être, éloignent encore le pouvoir régional du maire que vous êtes, par exemple.
Alors, effectivement, aujourd'hui, pour aller en réunion à la région. Hier, on allait à Besançon et demain, enfin aujourd'hui, on va à Dijon.
Et ça fait combien ?
Écoutez, on a la chance d'avoir une gare TGV juste à côté, au milieu du département. C'est rapide, mais ça n'empêche quand même que on a alourdi, on a fait un machin, excusez-moi, beaucoup plus compliqué, et ça va coûter beaucoup plus d'argent public que d'avoir l'échelle d'hier au niveau de la région.
Agnès Lebrun, vous avez de la chance parce que ça n'a pas bougé la région.
Oui, alors
la région Bretagne, vous êtes tranquille.
C'est pour cette raison que dans les nombreux déplacements, je trouve ça absolument passionnant et on c'est bien la preuve, je crois, à contrario, qu'on a pensé que plus c'était grand et moins ça coûtait cher et puis si en vérité, c'est plus c'est grand et plus on s'est trompé. Ça ne veut pas dire que plus c'est petit, mieux c'est. Ça ne veut pas dire ça. Mais c'est pas
Small is beautiful.
Voilà, c'est pas ce clivage-là. C'est un premier clivage qui est que laissons les gens pour eux-mêmes, les élus pour eux-mêmes, apprécier leur spécificité territoriale et décider que ce qui vaut dans un endroit ne vaut pas dans un autre. Puisque en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, c'est un petit peu compliqué. Enfin, le territoire.
Ça n'est pas l'agent d'entretien de la ville de Morlaix qu'on entend, c'est l'agent d'entretien de la
porte de Versailles. Vous voyez le problème de transfert de compétences que ça peut donner comme conséquence.
Christine Deneville, donc, ces questions effectivement de grandes régions, vous êtes dans une région qui est alors.
Ben maintenant, oui, c'est ça. Moi je mets 3h15 pour aller à Bordeaux. Quand j'arrive, du reste, j'ai renoncé à rentrer dans Bordeaux. Je pense qu'effectivement, ce changement de strate est une vraie question en tous les cas. Pas toujours un problème, mais une vraie question. Et ça renvoie à la place de la commune. C'est vrai qu'on a entendu, à un moment donné, François Baroin l'a dit, la commune n'est plus utile, la commune ne sert à rien. Et moi, je crois que tant que les administrés, les citoyens ne le décident pas, la commune est utile. Parce que je crois qu'on a tous besoin d'être de quelque part. Et même quand vous habitez Paris,
disait enraciner tout.
Voilà. Même quand vous habitez Paris, vous habitez un arrondissement, vous avez un boulanger, vous avez vos propres circuits. Et donc, au fond, vous vous recréez quelque chose, un endroit d'où vous êtes. Et je pense que chacun, on a besoin de ça.
Parce que recréer, ça veut dire qu'on peut se déplacer, arriver dans une nouvelle commune et redevenir de cette
absolument,
commune
choisie
parce qu'on l'a choisie.
Et on a besoin de ça. Pour être équilibré, et chaque fois que on n'a pas un individu en face de soi, mais une communauté de communes qui est à une heure de voilà, on crée de l'insécurité et l'insécurité crée les idées simples. Renvoie sur les idées simples, je pense qu'on comprend ce que je veux dire.
Pierre Rey, on sait que vous allez abandonner votre mandat après 31 ans donc de service dans votre commune d'Autrechaine. Vous avez pensé à ce que vous feriez après? Généralement, c'est ce qu'on dit aux gens qui partent à la retraite. Qu'est-ce que tu vas faire? Quels vont être votre hobby? Que va être votre hobby après avoir dirigé votre commune aussi longtemps?
Je ne sais pas si je vais tout dire. Non, mais
vous allez partir en voyage aux Caraïbes.
Non, je vais voyager. Oui, bien sûr, mais il faut avoir des projets, sinon on crève à petit feu. Et je vais
faire autre chose.
Je vais faire autre chose.
Ouais.
Mais pas. J'ai donné pour ma commune, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, pardon, mais. Non, mais j'ai plein. Et puis, je crois, on ne l'a pas dit suffisamment, mais dans nos vies d'élus, que ce soit des hommes ou des femmes, on a un compagnon.
On a fait peser sur son compagnon, soit.
Et on a fait peser. Et je peux vous dire qu'il faut avoir quelqu'un qui a de la tolérance à côté de vous quand vous êtes élu. Parce que quand vous partez en réunion, puis que vous rentrez le soir à point d'heure, alors vous avez promis.
Il peut y avoir trois réunions dans la semaine.
Oui, oui, mais bon, les réunions à répétition, mais c'est vrai qu'il faut être costaud. C'est une épreuve.
Et c'est un plaisir en même temps.
C'est un plaisir en même temps.
Il ne faut jamais oublier les deux.
Ah non, mais je crache pas dans la soupe.
Merci à vous trois. Merci Christine Deneville. Merci Agnès Lebrun. Et merci à vous Pierre Rey d'être venu ici à la Porte de Versailles pour ce congrès, 102e congrès des maires de France, discuter de cet avenir, du métier de maire. On n'a pas discuté de savoir si c'était un métier ou si c'était une vocation, mais on a bien compris qu'il y avait beaucoup de sacerdoce là-dedans. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Louise André à la technique ici à la Porte de Versailles. Gilles Gallinaro, Yves Lehors, Alain Pied et Pascal Bresse à la Maison de la Radio. Jean-Frédéric, c'est à la réalisation Anna Buis.